Chapitre 18. Jane garda le téléphone jetable à portée de main, de façon à pouvoir continuer de surveiller Lawrence Anafin grâce au mouchard de ses téléphones fixes. Elle retira sa perruque blonde et la rangea soigneusement dans un sac en plastique qui retrouva sa place dans le cabas. Anafin ne s'était pas trompé en la soupçonnant de n'être ni blonde ni brune. Ses cheveux châtains étaient suffisamment bouclés pour modifier la forme générale de son visage en l'éloignant des portraits d'elle qui circulaient sur Internet. Dans son ancienne vie, avant qu'elle ne se retrouve en cavale, elle avait rarement éprouvé le besoin de se maquiller. Le fond de teint, l'ombre à paupières et le rouge à lèvres constituaient désormais un masque qui lui donnait une impression d'anonymat, sans doute plus grande que la réalité. Aussi décida-t-elle de s'en passer pour une fois. Elle conserva sa casquette et sortit du sac en toile des lunettes factices. De retour à la fenêtre, elle attendit que Randall rappelle Anafin en se remémorant le détail de leur conversation précédente. L'avocat avait prononcé deux phrases qui l'avaient particulièrement intéressée. « Je vais commencer par demander à notre contact à la NSA de passer à la vitesse supérieure. On n'a pas beaucoup de temps si elle doit te rappeler à midi. » Il n'était pas anodin qu'il fasse allusion à la National Security Agency. Les implants cérébraux de Berthold Tchenek étaient un véritable graal pour un grand nombre de salopards assoiffés de pouvoir, ce qui avait permis à Tchenek et DJ Michael de monter un complot à grande échelle impliquant aussi bien des acteurs du privé que des hauts fonctionnaires recrutés au FBI, à la sécurité intérieure, au ministère de la Justice et à la NSA. Et ce n'était qu'un début. Jane soupçonnait la CIA, le fisc et d'autres organismes gouvernementaux d'être également infiltrés par cette bande d'utopistes totalitaires jusqu'au plus haut niveau de l'État. De toutes les agences fédérales en charge de la justice et de la défense nationale, la NSA était probablement la plus secrète et la plus puissante. L'immense centre de recueil de données dont elle disposait dans l'Utah était capable d'écouter n'importe quelle conversation téléphonique et de lire n'importe quel SMS ou email, de les archiver et d'en analyser le contenu afin de détecter des activités terroristes éventuelles. Les spécialistes de la NSA ne lisaient pas les messages et n'écoutaient pas les conversations en temps réel. L'agence disposant de programmes spéciaux capables de repérer les données suspectes, seule une partie infime du flux des communications faisait l'objet d'un examen poussé. Mais si Larkin et ses semblables avaient un complice haut placé au sein de la NSA, ils avaient les moyens d'identifier et de localiser l'appareil jetable de Jane lorsqu'elle appellerait Lawrence Anafin à midi. 4 ans plus tôt, certains responsables du FBI avaient cru deviner que la NSA disposait dans les grandes villes d'avions de surveillance capables de prendre l'air à la première alerte. En volant à une altitude moyenne, ces appareils surveillaient tous les appels passés depuis un portable dans un rayon de 80 km. En outre, les spécialistes qui travaillaient à bord avaient la possibilité de réduire le champ de leurs investigations en sélectionnant des mots-clés liés à une alerte spécifique. Par exemple, les noms de terroristes recherchés ou encore le patronyme d'une cible particulière soupçonnée de préparer un attentat. Dans le cas présent, armés du numéro de portable d'Anafin et de celui de sa ligne fixe, les équipes volantes de la NSA n'auraient aucun mal à repérer l'origine de l'appel de Jane, qu'elle se trouve sur un banc dans un jardin public ou bien au volant de sa voiture. De toute façon, cela n'avait plus aucune importance puisque Jane savait désormais que Lawrence Anafin n'était pas le journaliste intègre qu'elle espérait trouver. Elle n'avait plus aucune raison de l'appeler à midi. Grâce à lui, elle avait toutefois appris que son correspondant était un complice de David James Michael, peut-être même un membre de sa garde rapprochée. La piste méritait d'être suivie. Faute de pouvoir révéler le scandale dans la presse, elle n'avait d'autre solution que de s'attaquer directement à DJ Michael. Un homme aussi riche que lui serait forcément difficile à traquer. Il disposerait de nombreux agents de sécurité. Il suffisait de savoir que Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, était entouré en permanence de 16 gardes du corps solidement armés pour comprendre que Michael serait mieux protégé encore. Les deux hommes jouissaient d'une fortune comparable, mais Michael avait davantage à cacher. Il savait aussi que Jane avait éliminé deux de ses proches, Berthold Schenek et l'avocat William Overton. Elle avait beau avoir toutes les forces de police du pays à ses trousses, elle circulait toujours librement. L'autre détail intéressant glané au cours de la conversation entre Anafine et Larkin était plus ténu, mais elle était persuadée d'en avoir compris le sens. Lorsque le journaliste avait insisté sur son désir d'être nommé rédacteur en chef de son journal, en échange des informations qu'il possédait sur Jane, Larkin avait réagi de façon étrange. « Tu as déjà oublié ce qu'on a fait pour toi il y a un an ?» lui avait-il demandé. Sakura, la femme avec laquelle Anafine était mariée depuis 17 ans, était morte un an plus tôt. Jane ne connaissait pas tous les détails du drame, mais elle savait que Sakura était décédée des suites d'une allergie. Anafine était absent au moment des faits, son journal l'ayant envoyé en reportage à l'autre bout du pays. Avec des amis tels que Randall Larkin et DJ Michael, il ne risquait pas de se salir les mains.